Cœur Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury.
Alors, nous allons au musée, naturellement, parce que nous sommes lundi, et bon anniversaire à tous les... Bonne fête, pardon, à tous les Rémy. Stéphane Covio, bonjour. Guillaume Sébastien, bonjour.
Bonjour.
Vous nous emmenez au Petit Palais pour aller assister à cette formidable exposition qui s'appelle Le Paris de la modernité. Alors, il faut dire que c'est le troisième et dernier... épisode de ce triptyque était constitué, vous vous souvenez, de Paris romantique 1815-1848 et de Paris 1900, la ville spectacle. Ça reprenait d'ailleurs un peu l'idée de cette grande exposition Vienne 1900, vous vous souvenez, au Grand Palais il y a une vingtaine d'années. Donc là, c'était Paris 1900. Et là, ça se termine par 1905-1925, le Paris de la modernité. Alors c'est formidable parce qu'au début, on est à Montmartre. Et puis, il y a la guerre. Et après la guerre, on va à Montparnasse. Donc, on passe du Lapin Agile à la Brasserie du Dôme, mais avec un certain nombre de peintres et de sculpteurs qui appartiennent aux deux. Donc, il va y avoir une espèce de trait d'union. Et puis, au milieu de ça, eh ben, on va avoir une explosion avec l'art déco, très, très pur, avec la haute couture de notre ami Poiret, qu'on voit des robes merveilleuses dans cette exposition. Et puis, on voit ces peintures formidables. Moi, j'ai découvert des Modigliani que je ne connaissais pas, un Soutine que je ne connaissais pas. Enfin, c'est une exposition merveilleuse et formidable. Allez, vous nous y emmenez.
Ben c'est une magnifique exposition. Surtout, en fait, qui est très... c'est une balade. Moi, je me suis promené dans cette exposition et de façon extrêmement agréable. Donc, la scénographie est extraordinaire. On passe de salle en salle, comme ça.
Et on tombe sur un avion.
On se balade, effectivement. Donc, vous avez dit, les dates, c'est 1905-1925.
Ouais.
Donc, on se balade pendant ces 20 années très, très très importante, très foisonnante du Paris des arts. On se balade entre les arts, puisque comme vous l'avez dit, il y a aussi bien de la peinture que de la sculpture, que de la joaillerie, ouais, que de l'architecture, que du cinéma. Et puis surtout, on apprend beaucoup de choses. Donc oui, ça nous permet d'apprendre, de réviser son histoire de l'art, qui est quand même l'histoire de l'art du début du XXe siècle. En France, à Paris en particulier, c'est pas rien.
Quelle fierté pour les Parisiens.
Et donc, cette exposition est extrêmement bien faite. Le sujet est formidablement traité, celui de la modernité. Mmh. On se rend effectivement compte à quel point Paris était à la pointe, était moderne à cette époque-là.
Incroyablement.
Donc, moi, vraiment, j'en suis sorti avec ravi, très, très enthousiaste, avec une envie d'y retourner même.
Et moi, j'ai trouvé que cette exposition était très bien organisée, très bien montée. Le danger avec une période aussi foisonnante et ensuite aussi complexe, parce que vous avez dit de 1905 à 1925, c'est rarissime d'avoir de cette date à cette date. Normalement, c'est les années folles d'un côté, donc l'après-guerre 14, ou la belle époque avant, mais réunir les deux, avec en plus la guerre au milieu, et faire en sorte que ce soit un fil continu que l'on suive, ben c'est une belle performance que les conservateurs ont réussi, les commissaires de l'exposition. Et ils ont restreint leurs propos, ce qui est une excellente chose, en choisissant des créateurs et en les suivant. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu tout montrer. Mmh. Par exemple, en couture, il y a Poiret, hein, voilà, que vous évoquiez, dont on reparlera. L'exposition, enfin, ça commence avec 1905. 1905, c'est le salon d'automne avec les fauves.
Oui.
Et donc, on commence avec le fauvisme. Après, il va y avoir le cubisme. Et on parlait de l'histoire de l'art. Et il y a une chose qui m'a marqué. Alors, il y a des choses que j'ai découvertes que je n'avais jamais vues. Par exemple, vous avez tous entendu parler de ce fameux tableau qui a été réalisé avec la queue d'un âne et qui servait à se moquer de la peinture moderne de l'époque. Ben, moi, ça fait des années et des années que j'ai entendu parler de ça. On m'en a parlé à l'école et je ne l'avais jamais vu.
Et là, on le voit.
Et là, il est présenté. Donc, mais ça, c'est juste une petite chose amusante. À côté de ça, on a des œuvres authentiques très fortes. Par exemple, dans le salon d'automne, on a un très beau Camoin. Camoin qui fait partie des fauves et qui est présenté là avec un tableau qui était vraiment là cette année-là. Et on y trouve aussi les statues d'un sculpteur qui s'appelle Albert Marque, à ne pas confondre avec le peintre Albert Marquet qui était lui là aussi, mais pour sa peinture. Et Albert Marque a réalisé des statues qui sont assez classiques en fait, hein. Et on voit un enfant sculpté de manière très réaliste et très élégante aussi. Et c'est justement la vision de cette statue dans le salon d'automne qui avait fait dire à un journaliste de passage qu'il avait vu là un Donatello parmi les fauves. Donc vous avez toute une série d'éléments comme ça qui vous font rentrer dans l'histoire et qui sont intéressants d'observer.
Cœur Guillaume Sébastien, on a trouvé L'homme à la pipe de Shana Orloff. On en avait parlé il y a l'année dernière, en fin d'année dernière pour l'exposition qui est rue d'Assas. Moi j'étais très content de voir cet exemplaire-là, qui est un exemplaire beaucoup plus important que celui que nous avions vu dans l'exposition, et qui est là, qui trône au milieu d'une salle. Enfin, c'est et c'est aussi une expression de la modernité.
Oui, absolument. Elle est au milieu d'une salle, au milieu d'expositions. Et je crois qu'il y a une autre sculpture de Shana Orloff un peu plus loin. Donc c'est très beau. Je reviens simplement sur ce que vient de dire. Effectivement, l'exposition démarre en 1905.
Oui.
Alors, il faut d'abord quand même souligner que oui, elle démarre en 1905, mais la première image que l'on voit quand on rentre dans l'exposition, c'est une photo de Picasso.
Oui.
Donc, oui, effectivement, ça démarre avec le salon des fauves et le fauvisme, mais tout de suite, il y a cette très grande photo de Picasso qui est prise dans son atelier du bateau Lavoir. Un peu plus loin, un tableau de lui, donc pour vraiment montrer que
c'est lui qui va régner.
Picasso commence à va effectivement
dominer
cette période. À propos des fauves, moi, une toute petite déception, parce que on a l'impression que cette fameuse salle numéro 7, je crois que c'était au Grand Palais qu'a eu lieu cette exposition du Salon d'automne, donc cette salle a donné lieu au fauvisme. Je pensais qu'elle était reconstituée dans cette exposition. Et en fait, je me suis aperçu que non, malheureusement. Donc c'est une déception pour moi, parce qu'effectivement, il y a plusieurs artistes qui étaient dans cette salle numéro 7, dont Matisse, donc Moins, etc., qui sont présentés, mais ce ne sont pas les œuvres qui étaient en 1905, et même, je crois que les sculptures de Marc dont vous parliez au milieu, ne sont pas celles qui étaient dans ce salon, je crois. Voilà. C'est ma seule déception de cette exposition qui,
parce que vous
à part
avez
ça,
un teasing trop important.
Est une merveille et passionnante.
Alors, notamment, je trouve qu'on commence avec un chef-d'œuvre magnifique qui est cette tête de femme de Modigliani. Qui
incroyable,
nous a été,
extraordinaire.
Qui est une splendeur.
On est entre Brancusi et l'île de Pâques.
Mais alors justement, parce que c'est peu de temps après l'arrivée de Modigliani à Paris, et il a été formé à la sculpture par Brancusi.
Mais oui.
Donc on a cette moi j'ai envie de dire un biface.
Ouais.
Vous connaissez ces pierres néolithiques taillées avec donc comme une lame, et en fait on a ce nez qui est comme une lame sur le profil de ce visage qui est d'une élégance extrême. Évidemment, on pense à vous parlez de l'île de Pâques, on peut penser aux idoles cycladiques, on peut penser à l'art africain aussi. Et cette œuvre est très très belle, et il faut aussi être attentif à la pierre dans laquelle elle a été réalisée. Elle a un très très beau grain, c'est un grès bien particulier, dans les gris avec des teintes un peu ocre, et on a des effets de lumière caressantes sur les joues, par exemple, de ce visage féminin, qui sont très très beaux. Et j'ai pensé, même en voyant cette statue-là, qu'elle était peut-être un peu trop éclairée, et ça m'a convaincu quand j'ai lu que Modigliani exposait, montrait cette statue éclairée par des bougies le soir, parce qu'il envisageait de réaliser avec cette statue et d'autres qui ne sont pas dans l'exposition, bien entendu, un temple de la beauté dédié à la beauté idéale et dont cet élément faisait partie. Et c'est vraiment une très très belle chose.
Malheureusement, il a dû arrêter parce que les poussières de pierre lui attaquaient les poumons qu'il avait déjà très malades.
Et dans la même salle, il y a une autre sculpture qui est aussi un bijou, je trouve, de statuaire, qui est une petite tête de jeune femme par Zadkine, qui est une merveille. Elle est accrochée en hauteur à droite, c'est la deuxième salle, troisième salle d'exposition, vraiment très près, et on a un travail sur les volumes, sur les bombements des volumes de marbre. Là, on a un très beau marbre blanc avec des petites illuminations et des espèces de petites étoiles étincelantes quand on est attentif à ce bloc, avec un travail sur des bombements, un travail sur des lignes, une stylisation. Il creuse très peu son bloc, les orbites sont très peu creusées, le nez est très peu saillant, c'est magnifique. Magnifique. Ça ressemble d'ailleurs à une des statues dont on a parlé quand on a évoqué l'exposition Tchernorlov actuellement au musée Zetkin.
Absolument.
Là, il y a une très belle maternité de Zetkin, ça doit être à peu près les mêmes dates, on est autour de 1914.
Il y a toute une salle des maternités. Alors moi j'étais très étonné voir des peintres, des femmes qui sont très à l'honneur dans cette exposition et que je ne connaissais pas. Par exemple, Natalia Koncharova.
Alors, oui. Qui est très connue.
Voilà.
Jacqueline Marval.
Et qui a une nature morte au lilas de 1913 qui est absolument superbe. Et on est complètement dans le cubisme, je dirais, avec des couleurs proches de celles de Kandinsky, ce vert, ce mauve, ce rose. On a aussi Jacqueline Marval qui est bien exposée. Ce sont des peintres que l'on ne voit pas souvent.
Non, non, c'est vrai.
Alors... Et là, on voit que dans ces années-là, entre 1905 et 1925, les femmes sont vachement présentes.
Oui, alors l'exposition peut effectivement montrer que les femmes existent. Ce sont des artistes aussi, qu'il y en avait un certain nombre dans cette époque-là. Mais elle veut aussi montrer, notamment c'est la première partie d'exposition, c'est que Paris, avant la Première Guerre mondiale, a été quand même l'endroit où beaucoup d'artistes étrangers, notamment de l'Europe de l'Est, sont venus, se sont établis, ont été... facilement acceptés, intégrés et sont devenus de très grands artistes. Donc on parlait de Modigliani à l'instant, mais Chagall, dans cette même salle où il y a cette magnifique sculpture de Modigliani, il y a un tableau de Chagall qui représente son atelier, qui ne ressemble pas au Chagall que l'on a en tête, qui est absolument incroyable. Une autre femme qui est présente dans l'exposition, c'est Marie Laurencin.
Oui, très
donc,
présente.
Qui a été la compagne d'Apollinaire à un moment. Et là aussi, grande surprise, on voit un autoportrait de Marie Laurencin qui est assez qu'elle a fait assez tôt, assez jeune. D'ailleurs, elle est pas très belle, je trouve, sur ce tableau, mais ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on connaît de la peinture de Marie Laurencin. Donc, non. L'exposition présente des œuvres qui ont été méticuleusement choisies et qui sont d'une grande qualité qu'on n'a pas vu, qu'on voit pour la première fois.
Il y a un tableau d'une peintre femme qui m'a beaucoup marqué aussi dans la partie guerre 14, oui. Où l'on voit deux soldats sénégalais qui sont exposés. Alors, c'est une magnifique toile dont un, ils sont tous les deux assis, il y en a un qui est de profil, il y en a un qui est face à nous, qui nous regarde. C'est une très très belle œuvre. Il y a un sujet assez proche qui est peint par Valoton, toujours dans la période 14-18. Il y a la manière dont les artistes ont travaillé ou pas travaillé pendant la guerre. Il se trouve que Valoton a été employé comme peintre de guerre. Et il y a deux tableaux qui sont très beaux, qui sont très différents l'un de l'autre. Il y en a un qui a d'une facture assez naïve, où on voit des baraquements dans un paysage peut-être enneigé, avec là aussi des tirailleurs sénégalais qui sont au repos. Et c'est une très très belle œuvre, c'est vraiment un très bel esprit. Dans
Soldats
cette,
sénégalais
dans
cette... au camp de Mailly, peint en 1917 par Félix Valoton.
Et à côté de ça, au contraire, il y a un paysage ravagé par la guerre.
L'église des Hurlus en ruine.
Dans la Marne, ou je ne sais plus où, tout à fait. Mais ce sont deux très belles œuvres.
Oui, oui. Et alors, on parle, vous parliez des différents peintres qui sont arrivés. On parle aussi de La Ruche. Il y a un très beau, une très belle peinture de La Ruche sous la neige. Donc, La Ruche existe toujours. Elle est de passage de Danzig, dans le 15e arrondissement. Elle a été restaurée. Il y a toujours des peintres qui y travaillent. Et les abeilles, comme on disait, c'est tous ces artistes. Il y avait Modigliani, Fernand Léger, Alexandre Archipenko, Libiez, Henri Lorenz, Blaise Sandrars et autres. Et tous ces gens se travaillaient ensemble, se côtoyaient. Il y avait une sorte d'émulation. Alors, on voit ça avec beaucoup de... Avec le temps, on se dit « Ah, ça devait être vachement chouette, tous ces copains. » En fait, ils marchaient sur les rats, ils crevaient de faim, il y avait des inondations sans arrêt.
Il paraît que ça sentait très mauvais et qu'il y avait des punaises de lit partout.
Oui, absolument. Mais ils sont tous là. Et alors, ils ne restent pas longtemps. Ils passent par La Ruche, ils passent 3-6 mois. Et puis après, ils partent...
Alors justement, l'atelier dont parlait Guillaume il y a quelques instants, c'est un atelier de La Ruche. Et on y voit, chose intéressante, les tableaux qui figuraient dans l'atelier ou qui n'y figuraient pas. Parce que justement, on a un tableau de Chagall qui date de 1909, je crois, qui représente sa fiancée, Bella.
Oui.
Et Chagall l'a représenté dans l'atelier, ce tableau. Et on ne sait pas si le tableau y était vraiment ou si il a voulu marquer la présence, comment dire, dans son esprit de Bella, qui était resté en Russie, en faisant apparaître le portrait dans le tableau de l'atelier.
Alors, vous parlez de l'atelier d'artiste. Il y a un atelier d'artiste rue de la Boétie, c'est Pablo Picasso, qui est incroyable, qui est au fusain et au crayon, qui est... Ça, je suis resté longtemps dessus. Il est sur la droite, dans une des salles. Quand vous rentrez, il est tout de suite sur la droite. Il a l'air un peu planqué.
C'est juste après la guerre.
Voilà. Mais là, ça vaut vraiment le coup de regarder ce coup de crayon et l'architecture de ce dessin. C'est absolument éblouissant. C'est un format moyen. Hein, donc, ce n'est pas un petit format. Et ça, je suis resté en arrêt longtemps dessus.
Alors, oui, donc c'est un moment où Picasso est devenu plus connu. Donc, il a quitter l'indigence du bateau Lavoir de Montmartre pour venir rue de la Boétie. Et là aussi, c'est un point que montre bien l'exposition. Ce sont l'évolution des ces quartiers de Paris, les migrations, j'allais dire, des artistes d'un quartier vers un autre. Donc Montmartre a été à la fin du 19e, au début du 20e, le quartier des artistes. Et puis peu à peu, vous parlez de la ruche, ces artistes ont émigré vers Montparnasse, ouais. Et puis aussi ce quartier de la rive droite autour de la rue de la Boétie des Champs-Élysées, qui est un quartier extrêmement important, puisque c'est dans ce quartier que se sont développées les galeries d'art, donc qui ont montré.
C'est là où il y a Paul Rosenberg.
Paul Rosenberg et autres.
Qui est le nouveau, à ce moment-là, le nouveau marchand de Picasso.
Et où Paul Poiret va aussi s'établir, avenue Franklin Roosevelt, dans son hôtel particulier, où il fera des fêtes somptueuses.
Et c'est dans ce quartier-là qu'est votre galerie, la galerie Guillaume, qu'il faut aller voir, rue de Penthièvre, parce que vous avez...
Pas encore établi à l'époque.
Parce que vous avez pas mal d'expositions qui sont superbes pour cette année 2024. Alors donc, Picasso, il fait un beau mariage à ce moment-là, avec Olga, il s'installe rue de la Boétie, au quatrième étage, l'appartement atelier a un grand confort de vie, de grands espaces, une sorte d'embourgeoisement, et là il va recevoir toute l'intelligentsia internationale, il va présenter ses peintures en les confrontant à d'autres œuvres, à des objets de sa collection personnelle, et ça va être un peu une sorte de showroom. Alors c'est intéressant de revoir, encore une fois, j'insiste, sur ce dessin qui est au crayon et au fusain, où on voit toutes ces toiles qui s'accumulent. Et alors, c'est merveilleux, parce qu'on a aussi la mandoline qui est au fond, et on a tous les tableaux qui sont vraiment l'actualité. Oui. La photo de 1920.
Je disais tout à l'heure que l'exposition commence par une photo de Picasso pour bien montrer qu'il a dominé de cette période, mais après, à part ce dessin auquel vous faisiez allusion, finalement, on n'en entend plus beaucoup parler. Il est plutôt question des entre guillemets, des suiveurs de Picasso.
Oui.
Et là, c'est très intéressant de voir ces cubistes ou ces post-cubistes que sont Lafrenet, Metzinger, dont on voit des très belles œuvres que moi, personnellement, je n'avais jamais vues montrées à Paris.
Et il faudrait quand même qu'on parle de Paul Poiret.
Alors, allons-y.
Parce que pour moi, c'est une découverte. Je vous avouerai que je m'intéresse assez peu en général à la mode.
Ben, faut la galérer.
J'ai été forcé de regarder et je n'ai pas été déçu. Je trouve ça tellement beau.
Alors, c'est très bien présenté.
C'est magnifiquement présenté parce que ça présente à la fois un travail sur les arts décoratifs que sont les papiers peints parce qu'il a créé ou il a demandé à des créateurs de créer pour lui des papiers peints. Il y a aussi dans la même salle l'invention de la montre à bracelet pour hommes. Je crois Cartier,
oui,
c'est ça,
oui, tout à fait.
Puisqu'il n'y avait des montres à bracelet que pour les femmes, et Santos Dumont, l'aviateur, a demandé qu'on fasse pour lui une montre à bracelet.
J'ai regardé le prix, pas de l'original de l'époque, mais ouais. Le prix aujourd'hui de la reproduction est à 14 100 €.
Ah, si voilà.
Alors que la montre est très sobre, elle est très belle, elle est carrée, elle est très belle.
Toujours dans les arts décoratifs, on a les flacons de parfum parce que Poiret est le premier à avoir, en tant que couturier, lancé des parfums, et il y a le flaconnage évidemment.
Et le flaconnage, et oui.
Et donc là, je parle de tous les à côté, mais il y a bien entendu les robes qui sont présentées.
Superbe.
Donc il est celui qui a libéré la femme du corset, et il y a quelques robes dites. Enfin, il y a une robe d'abord, une robe directoire, hein, donc qui ressemble à ces fameuses robes qu'on voit sur les tableaux de la fin du XVIIIe siècle. Et mais c'est d'une beauté. Les matériaux,
le choix des tissus,
le raffinement des tissus.
Oui.
Enfin bon, bref, je suis pas un spécialiste de la chose, donc je m'émeus comme un béotien.
Oui.
Mais sincèrement,
on voit cette vitrine sur la droite. droite avec deux mannequins et un éventail. Ouais. Et j'avoue qu'on est un peu stupéfait. Donc moi, je suis resté. Alors, il y a peut-être un bémol à donner à cette exposition. Je l'ai vu mercredi dernier et il y avait beaucoup de monde.
Ah oui.
Il y avait beaucoup de monde et des gens qui étaient un peu lents. Et il y avait des groupes aussi, et donc c'était parfois, j'avais envie que les gens se poussent pour être seuls, parce qu'il y a quand même des vitrines somptueuses, et devant lesquelles on a envie de s'attarder longtemps.
Bah, c'est la rançon du succès, et c'est le genre d'expo où il vaut mieux aller entre midi et deux, par exemple, oui. Pour avoir une fréquentation plus agréable.
Kees van Dongen, très important dans cette époque.
Il y a plusieurs très beaux tableaux, je trouve, notamment dans la période fauve, il y a une femme, une grande femme debout sur fond noir qui est magnifique, et on a un tableau. On a un autre tableau d'intérieur avec une fontaine au centre et des fleurs qui est une chose très très belle aussi.
La vasque fleurie.
Et ça se termine, me semble-t-il, par un grand Van Dongen, alors qui est moins fort, mais qui justement illustre la période pendant laquelle Van Dongen est devenu davantage un peintre mondain. Mmh. Donc bon, évidemment, il y a moins d'intensité dans ce travail que dans les premières années vraiment, vraiment fauves.
Et là, dans la vasque fleurie, qui est vraiment au centre, mais notre regard va sur le personnage de gauche, qui est une femme quasiment dénudée, très belle, et qui se regarde dans le miroir. Et on a à la fois de face et de dos, mais de façon extrêmement érotique et extrêmement pudique en même temps. Ce que je trouve un équilibre très très réussi. Et en bas à droite, on a le chien qui dort. C'est un tableau d'une composition très étrange, parce que le centre est en effet sur la vasque et sur le bouquet de fleurs. Et de droite comme de gauche, on a des choses très importantes qui se passent. Peut-être même ici, un crâne pour parler d'une vanité. Et tout ça est juste suggéré. C'est une toile que j'ai trouvée très, très, très belle.
Alors, on fait beaucoup de découvertes. Par exemple, il y a l'autoportrait de Jeanne et Buterne que je ne connaissais pas.
Mais non, je ne connaissais pas non plus.
Qui vient du petit palais de Genève.
Mais oui.
Une toute petite œuvre, mais très, très marquante, avec des couleurs, une intensité.
Jeanne et Buterne, qui était la compagne de Modigliani et qui va se suicider.
Qui est placée en face d'un portrait de Jeanne et Buterne par Modigliani. C'est assez. C'est troublant de voir cet autoportrait de Jeanne et Buterne en face de son portrait par Modigliani dans la même salle.
Et ça c'est un scope. Alors on parlait des différents étrangers qui arrivent à ce moment-là. Il y a Fujita, le japonais, qui va se faire appeler Léonard Fujita, mais il avait un prénom assez compliqué à dire parce que c'était Tsugaru Fujita. Et j'ai trouvé cette peinture extraordinaire.
Oui, alors là, on est passé après la Première Guerre mondiale.
Oui, donc on est en 1917.
Et donc là, Fujita, effectivement, devient assez... est connu dans le Paris des arts de cette époque-là. Et il y a plusieurs œuvres de lui qui sont présentées.
Et puis alors après, il y a beaucoup de choses. C'est impressionnant comme cette exposition aborde de nombreux sujets, parce qu'elle montre du spectacle. Il y a la
parade.
Exactement. C'est très intéressant parce qu'on a les costumes de scène de parade.
Oui.
On a un film qui nous montre, parce que
qui est drôle.
Exactement, où on voit la pièce qui est jouée, ou l'opéra, je ne sais pas comment il faut appeler.
Le ballet,
merci. Qui a été rejoué récemment. Dans les années 2000. Ça nous met vraiment dans l'œil beaucoup de choses intéressantes.
Et puis 1913, c'est l'ouverture du Théâtre des Champs-Élysées.
Donc il y a une salle entière qui est consacrée.
Il y a une salle entière qui est consacrée, et c'est quand même extraordinaire, parce que ce sont les deux frères
Perret,
qui sont des fous de béton armé. On connaît à la fois la tour Perret à Amiens, et puis naturellement le Havre, et qui ouvre le Théâtre des Champs-Élysées avec le fameux ballet de Stravinsky qui va faire un scandale incroyable. Mais on est en 1913, et là, dans cette année, tout se passe. 1913, c'est très important. Vous savez que c'est l'année de la création des sucettes Pierrot Gourmand.
Je suis très ému.
Mais c'est aussi Proust, l'ombre des jeunes filles en fleurs, mais c'est aussi le concours pour Proust, et c'est aussi le théâtre des Champs-Élysées, c'est Stravinsky. Enfin, c'est une année extraordinaire. Et donc là, on voit aussi cette année 1913, parce que 1913, ça vaut le coup de faire vraiment une exposition dessus. Mais on voit 1913 et on part dans la guerre 1914-1918, on a cette salle, et ensuite l'explosion de Montparnasse. Et j'entends le générique qui commence, il me reste à vous rappeler cette exposition formidable, comme vous l'avez entendu, dans nos projets.
Sur laquelle il y a beaucoup d'autres choses à dire.
Laudatif, mais peut-être qu'on pourrait faire une autre émission. 1905-1925, le Paris de la modernité, j'aimerais qu'on y revienne, on peut y aller jusqu'au 14 avril. Stéphane Covio, vous vouliez dire ?
Que je fais visiter cette exposition à partir du mois de février, bon. Dans le cadre de l'association Venez et Voyez.
Donc on s'inscrit sur Venez et Voyez. Merci Guillaume Sébastien, merci Stéphane Covio, merci beaucoup à notre ami Koba qui est derrière sa vitre en train de préparer la cuisine de cette merveilleuse émission. Je vous remercie. Demain, on se retrouve avec Muriel Magellan pour son formidable livre La Fantaisie. Je vous embrasse.